La musique classique rassemble des milliers de noms, de mots, de techniques. L'encyclopédie de la musique publiée par Alcide est d'une grande ambition. Ici d'abord, on écoute. On écoute des sonorités, des groupes d'instruments, des morceaux choisis. Ensuite, on se place dans un orchestre qu'alors on dirige, attentif à chaque partie et mieux encore, à chaque partition. Mais il n'y a pas d'éducation de l'oreille sans rencontre avec les maîtres. De la musique médiévale à celle d'aujourd'hui, tous sont rassemblés. Pour beaucoup, un extrait d'œuvre aide à typer leur univers. Regrettons la part pauvre faite au jazz. En revanche, les amateurs confirmés apprécieront l'ouverture aux personnages de l'histoire de la musique, ceux qui écrivent des livrets, des biographies ou des critiques, même s'ils restent surpris par l'absence injustifiée du français. Ce programme allemand reste moins universel que son sujet. Enfin, une discographie critique manque à cette encyclopédie néanmoins très documentée. Une alternative est offerte aux auditeurs plus sensibles à la musique de chambre par un deuxième titre récent. Mille Médias a intitulé « Promenade », ce regard sur la musique écrite pour de petites formations. Trois chemins font découvrir leur paysage. D'abord, celui des instruments. Premier ou second rôle, ancien ou moderne, chacun est présenté en acte. En fait, la promenade est une sorte de cours illustré, chaque fois conclue par l'écoute entière d'un extrait. En second, les époques joliment présentées fondent quelques repères audio-chronologiques. Là encore, l'illustration sonore est introduite par un commentaire savant, mais clair. Pour une fois, la musique n'inspire aucun pédantisme, aucune affectation. Les auteurs voudraient juste faire comprendre leur goût. Et c'est encore le cas en troisième partie avec les compositeurs. Chacun a droit à une attention égale, qu'il soit ancien, classique ou moderne. Chacun se distingue dans un genre. Contrepoint ici, prélude ailleurs. Chacun combine des rythmes, adagio ou scherzo. Et la vraie promenade commence, celle où se marient instruments et noms propres, techniques et émotions. C'est la promenade de l'auditeur éclairé, buissonnier, musicien.
Non, non, il ne s'agit pas de la dernière simulation de vol acrobatique ni du dernier hélicoptère de l'armée française, mais de Silent Thunder, ainsi surnommé par les Irakiens pendant la guerre du Golfe et facochère par les Américains. En fait, le vrai nom de ce chasseur-bombardier est A-10 Thunderbolt II. Conçu vers la fin des années 70, le A-10 est l'avion d'émission délicate. Il a servi à la reconnaissance des terrains appartenant au cartel de la drogue en Colombie et il fut également l'avion qui assura une percée dans l'infanterie irakienne lors des événements de la guerre du Golfe en 1990. Sa grande portance lui permet de voler à basse vitesse et à basse altitude et donc d'échapper au radar. Cet avion trapu, plutôt laid mais d'une grande maniabilité, est équipé d'un armement impressionnant. Il peut porter à son bord jusqu'à 7 tonnes d'explosifs. Son épais blindage fait de lui un véritable char d'assaut volant. Utilisé pour les attaques chirurgicales ou pour du nettoyage en règle, il offre une vitesse et un rayon d'action supérieurs aux hélicoptères. Survol du désert à basse altitude au Proche-Orient, passage en rase-motte au-dessus des rizières de Corée, enfilade des canyons encaissés en Colombie, et le tout avec une aisance de surfeur qui maîtrise la vague. Mais on n'est pas là pour admirer le paysage, retour aux dures réalités de la vie militaire. 24 missions réparties sur 3 campagnes, dans des décors en 3D mappés, sont à exécuter. Les véhicules et les bâtiments, c'est-à-dire les cibles, sont également en 3 dimensions. Point fort pour Silent Thunder, qui se différencie des autres simulateurs de vol, finit les dizaines de touches nécessaires pour commander l'avion. La manipulation s'effectue avec seulement 3 ou 4 touches maxi. Du coup, on peut se consacrer uniquement aux missions, et c'est pas du luxe, vu le degré de difficulté. Pour profiter d'une animation parfaitement fluide, il est nécessaire de réduire le niveau de détail. On a droit alors à un clipping assez désagréable. Silent Thunder est une simulation qui saura séduire les pros du joystick et les néophytes. Ils découvriront les deux options qui leur sont dédiées, l'invulnérabilité et les munitions illimitées.
Thank you.
Qu'est-ce qu'un inventeur ? Un fantaisiste sympathique et un peu fou qui aime les poulies, les engrenages et malheureusement parfois le feu. C'est le professeur Tim qui fait très vite partager sa passion. Voici donc un programme qui nous fait inventer, deviner, combiner, tester jusqu'à en oublier que le monde existe. Tout ce qui produit un mouvement est utilisé. La gravité entraîne vers le bas des boules, des seaux ou même des fromages. Les plus légers que l'air tirent sur des cordes, amortissent une chute, détournent une trajectoire. Le feu allume des mèches, réchauffe une cafetière, la vapeur de cette cafetière pousse un ballon. Bref, vous avez compris, tous ces déplacements, ces effets de levier se combinent net pour produire un résultat, l'idée fixe de l'inventeur. Je dois absolument faire glisser cette balle dans cette cage. Mais pas question de la prendre et de la poser. Le vrai bonheur de l'inventeur et de bien des gens, c'est de rendre compliqué tout ce qui est simple. De plus en plus compliqué. Imaginez le plaisir de voir une boule tomber sur une bascule qui tire sur une corde, reliée à une mèche d'amadou, qui enflamme la montgolfière pour lui faire déplacer le seau qui tombe sur... Stop ! En fait, toutes ces machines sont des énigmes. Il leur manque un morceau. Le professeur Tim a besoin d'une idée de vous. C'est là le commencement de votre folie, parce qu'une fois que vous aurez renversé les obstacles qui gênaient le professeur, vous pourrez toujours aller dans son laboratoire. Plutôt un entrepôt où sont entassés des bouts de machins, des trucs, vraie caverne d'Aladin pour tout inventeur. Et c'est à votre tour de préparer des combinaisons tordues, de donner à votre soif de bonheur une image sublime, faire rentrer une bille dans un aquarium. Intéressant au début par la vision qu'il donne des conditions de vie dans un sous-marin moderne, le jeu devient vite lassant au fil des nombreuses répétitions qui jalonneront vos échecs successifs. Fast Attack de Sierra aborde au contraire le domaine de la simulation pure et dure d'un sous-marin moderne. Le jeu lui-même ne fait qu'un usage restreint des graphismes, préférant une débauche de boutons et autres molettes, toutes plus importantes les unes que les autres. Cette rigueur se retrouve dans la précision de la simulation. Quelques séquences cinématiques soulignant certaines actions viendront heureusement égayer cette simulation spartiate. Le jeu ravira les amateurs de réalisme, mais risque aussi de refroidir les autres, peu enclins à accepter de se plonger plusieurs heures dans le manuel avant de vraiment commencer. Silent Hunter de Manscaped établit pour sa part le meilleur équilibre entre simulation et accessibilité. Le thème est ici la conduite d'un sous-marin de la Seconde Guerre mondiale. Le ton historique est donné par une série d'interviews d'un célèbre commandant de sous-marin étayé par de nombreuses images d'archives. Selon votre envie, vous opterez pour une simulation de jeu fidèle historiquement ou une simulation plus libre offrant une grande variété de missions et un large choix de paramétrage. Le jeu lui-même reprend le principe de Silent Service, une cabine principale d'où le joueur accède aux diverses commandes. La prise en main est rapide, le joueur pouvant même se passer du manuel. L'aspect stratégique n'est pas occulté pour autant, le programme faisant preuve d'une bonne intelligence. Le meilleur choix pour le joueur non expert. Univers cyberpunk et voyage temporel sont des thèmes qui inspirent les auteurs de SF de ces 20 dernières années. Romanciers, scénaristes de films et créateurs de jeux vidéo ont su exploiter ce courant en s'inspirant des œuvres d'auteurs comme Herbert George Wells, Pierre Boulle ou Richard Matheson. Avec Chronomaster, US Gold s'inspire de l'œuvre du romancier Zelazny, l'auteur de la saga des Princes d'Ambre. Dreamforge, l'équipe de développement, a essayé de recréer l'univers du romancier avec quelques libertés. René Corda, le héros, est un créateur d'univers de poche. Vous voulez un monde médiéval, une planète préhistorique, un univers futuriste ou magique, il vous le réalise, contre une forte somme. Corda aujourd'hui est à la retraite, il ne s'occupe que de cas exceptionnels.
Urbs et Oran sont des planètes bloquées en stase temporelle. Ces deux mondes immobiles ont besoin de vous pour retrouver leur liberté. Le premier monde, hyper technologique et militariste, est tout sauf sympathique. Un géant de métal, des dirigeants xénophobes et des soldats bornés ont imposé la loi martiale.
Welcome to the Garden of Honor.
You have to come with us, sir. Orders from the Council of the Void.
You are most honorable professionals. We release you to continue searching for the solution.
Le second monde est plus féerique, mais tout aussi dangereux. Des méchants génies, des monstres baveux attendent ceux qui veulent les déloger. Dans ces univers artificiels, le héros manipule le temps à sa guise. L'argent est là seulement pour offrir la jeunesse et l'éternité. Le héros en a bien profité. Il est jeune et vigoureux, et pourtant, il est centenaire. Vous avez l'âge de la sagesse. Prenez donc votre temps pour résoudre les énigmes, car la mort plane sur vous. Les sauvegardes fréquentes seront donc indispensables pour parcourir le jeu. L'aventure, de difficulté moyenne, est passionnante. Associé à une superbe mise en image et à un humour corrosif, Chronomaster est l'un des jeux les plus attachants de ces derniers mois. Un bon niveau en anglais est en revanche indispensable pour pouvoir en profiter, aucune traduction n'étant prévue. Heureusement, le manuel est en français. New York, 2040. Un tueur fou a repris les méthodes de Jack l'Éventreur. La superbe intro donne le ton, dévoilant en direct le troisième crime du démon. Vous incarnez Jack Quinlan, un journaliste qui suit de près l'affaire pour le Virtual Herald. Mais très vite, ce fait divers va prendre un tour beaucoup plus personnel. Le tueur s'en prend à Catherine Powell, votre assistante, devenue aussi votre petite amie. Elle en survit, mais son état oscille entre la vie et la mort. Il faut arrêter ce monstre et l'empêcher de perpétrer de nouveaux meurtres. C'est le début d'une longue enquête pleine de rebondissements. Pour progresser, Jack devra questionner avec subtilité les personnages qu'il rencontre pour en tirer le maximum d'informations. À noter que la version finale sera sous-titrée en français. L'exploration des lieux est une autre étape importante à la recherche d'objets et autres indices.
For lunch.
Hey, Quinlan.
Au fil de ses découvertes, Jack pourra accéder à de nouveaux lieux et progresser dans la compréhension de l'affaire. Un certain nombre d'énigmes ardues émaillent le jeu. Le joueur peut heureusement en moduler la difficulté, une bonne partie de l'aventure se déroulant dans le cyberspace, dont les zones sont souvent gardées. Ici, c'est un mot de passe à découvrir. Là, ce sera un nouveau puzzle à éclaircir. Ailleurs, c'est un gardien qu'il faudra éliminer dans un mini-jeu d'action. La réalisation est d'un bon niveau. Les graphismes combinent des personnages numérisés incrustés sur les décors virtuels 3D. De très nombreuses actions donnent lieu à des vidéos plein écran, fluides et agréables. Les déplacements sont précalculés à la manière de Seven Guests. L'usage de la vidéo ne s'est pas fait au détriment des possibilités de jeu. L'interface à base de curseurs intelligents, qui change d'aspect en fonction des actions possibles, réagit avec vivacité. Si les interrogatoires ont une place importante, le joueur d'aventure trouvera aussi son lot d'énigmes et autres difficultés. Un bon jeu qui tiendra longtemps les joueurs en haleine.
Et en chasse par le garde du corps de Marco.
Voulez-vous rentrer dans un vrai film interactif? Le voici, Urban Runner.
Arrête où je tire!
Muriel Tramis, auteur de Lost in Time en 1993, nous propose son premier film interactif. Un vrai scénario, deux ou trois plans pour se mettre dans l'ambiance, et vous voilà au cœur de l'action. Une action bien noire, celle d'un bon vrai polar. Avec tous ses ingrédients, un journaliste très très fouineur, une vamp à la voix rauque et au décolleté prometteur, des gangsters aux faciès torturés, des courses-poursuites que ne renieraient pas Starsky et Hutch. Dans les situations totalement imprévues, on avance en silence, tous les sens en alerte. Pas de calcul ni de stratégie compliquée, on joue de façon instinctive. L'image au format cinémascope occupe une grande partie de l'écran et un simple clic permet d'entrouvrir une porte, de procéder à une fouille en règle pour examiner les objets en 3D et éventuellement les utiliser. La mécanique du jeu, très simple, permet aux joueurs peu aguerris de se sentir à l'aise et de se concentrer sur la recherche d'indices. Notons que Lost in Time, jeu du même auteur, avait déjà cette simplicité.
Bien. Allez, je suis là pour fouiller. Les toilettes ouvertes.
Les vieux routards du jeu d'aventure, quant à eux, se laisseront plutôt séduire par l'ambiance film noir et par les différents personnages. Les bavards et les curieux en seront pour leurs frais, pas question par exemple de choisir ses répliques lors des séquences de dialogue, ou bien d'explorer tous les lieux dans leurs moindres recoins. C'est parfois un peu frustrant, mais le silence est d'or et la curiosité peut s'avérer... fatal. L'aventurier débutant, lui, poursuivra son enquête toujours sur le qui-vive, mais confiant, sans avoir à affronter des dizaines d'écrans à la recherche d'un objet oublié. À chaque étape, un ou deux écrans vous permettent d'exprimer vos choix, vous évitant ainsi d'interminables hésitations. Et si malgré tout vous séchez sur un problème particulier, vous pourrez toujours utiliser un des trois jokers mis à votre disposition. À certains moments, la vie du héros sera suspendue à la rapidité de vos réflexes, mais la plupart du temps, il vous faudra solliciter vos neurones pour résoudre des énigmes parfois assez corsées. Visiblement, Sierra et Cocktail ont tenu à mettre le paquet pour cette mini-super-production du jeu vidéo. C'est l'acteur qui double habituellement Bruce Willis, entre deux explosions, qui prête sa voix au héros, et l'utilisation de caméras extrêmement mobiles donne à l'aventure un rythme digne d'une bonne série télé. On connaissait déjà le principe du livre dont vous êtes le héros, vous allez maintenant pouvoir passer au niveau supérieur avec le film dont vous êtes le héros.
Barbarian. Je me souviens de sa publicité dans les revues de l'époque. Elle pouvait faire croire qu'il s'agissait d'un jeu érotique. Déception pour ceux qui croyaient retrouver dans le jeu la dame de la pub, mais pas pour les vrais joueurs qui trouvaient sur Amiga un bon jeu de combat avec quelques gags mémorables. Spectrum Holobyte, l'éditeur, était une firme anglaise qui appartenait à Robert Maxwell, un homme d'affaires contesté, mort ensuite dans des circonstances très bizarres. Il a eu le temps quand même de publier le premier Tetris. Et voilà le gag dont je vous parlais. Les deux parties de votre adversaire sont débarrassées par un saurien débonnaire et méticuleux.